إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc dans cette explication de la croyance des gens de la Sunna et du consensus, c'est un livre de Cheikh Al-Uthaymeen qui est assez bien expliqué, où il donne des règles de base, puis il cite toutes les preuves l'une après l'autre, appuyant cette règle, ou bien la manière dont on doit comprendre ces textes. Notre manière, nous, d'expliquer, Inch'Allah, le livre, c'est d'abord d'établir une introduction où on explique en détail les règles sur le point qui va être traité juste après. Une fois que on a compris d'une vision générale et les règles de comment comprendre les textes et comment comprendre ces sujets et quelles sont les erreurs dans la compréhension de ces sujets-là, à partir de là, on lit l'explication du cheikh en donnant quelques explications supplémentaires pour éclaircir. Car le plus important est de comprendre ces règles-là. Une fois qu'on a bien assimilé ces règles sur les noms et les attributs, comme on va voir aujourd'hui, la croyance dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors à partir de là, tout ce que l'on va pouvoir étudier dans ce domaine-là, on va pouvoir les ramener à ces règles-là et mettre en pratique ces règles sur les différents domaines qu'on étudiera dans ce sujet. Concernant la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons parlé des trois catégories du tawhid et nous avons dit que de croire dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie d'une des catégories du tawhid et nous avons cité la parole du petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui a expliqué que celui qui ne concrétise pas une des catégories du tawhid correctement ne peut pas concrétiser les autres. En réalité, elles sont liées les unes aux autres. Ce tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comporte deux points essentiels et importants. Premièrement, le fait d'affirmer, al-ithbat, le fait d'affirmer les noms et les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même dans son livre ou que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah tabaraka wa ta'ala dans la sunna authentique. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim dans sourate al-Hashr, Wallahu alladhi la ilaha illahu, al-maliku al-quddusu al-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir, subhanallahi amma yushrikun. Dans le sens, c'est lui Allah, nulle divinité digne d'être adorée à part lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, il transcende ceux qu'il lui associe. Donc, ce verset est un exemple de verset où on trouve des noms et des attributs de perfection qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est affirmé à lui-même. Donc, quand on dit affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé comme nom et attribut pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire de at-tafwid ou bien at-tahrif ou at-ta'til. Je vais expliquer. At-tafwid, c'est le fait de dire on remet le sens de cette parole à Allah. On ne sait pas ce que ça veut dire. Allah, il dit, il a des mains. On ne sait pas ce que ça veut dire. Allah, il dit, il a un visage. On ne sait pas ce que ça veut dire. En faisant cela, en fait, ils ont renié la réalité de cette qualité. Car pour dire on ne sait pas ce que ça veut dire, ils ont renié. Ils n'ont pas affirmé. Donc à partir du moment où ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire, ils n'ont pas affirmé. Car il faut affirmer les lettres, le mot et le sens. Alors que le mufawwida, ceux qui font le tafwid, ils disent oui, on sait que c'est des lettres, mais on comprend pas ce que ça veut dire ces lettres. Comme si Allah tabaraka wa ta'ala, il leur avait parlé dans une langue incompréhensible, qui ne veut rien dire, qui n'a aucun sens. En réalité, ils ont voulu fuir d'une manière par laquelle ils pourraient ne pas affirmer ces attributs. Et comme ils sont dans le Coran, ils n'ont pas trouvé de solution à part inventer cette innovation-là. Et il y a ceux qui ont dit non, on ne peut pas renier ce qu'il y a dans le Coran. Donc, on va interpréter tous les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala que la raison n'accepte pas ou bien que l'on considère qu'ils ressemblent à des attributs ou des caractéristiques ou des qualités des créatures. Et en réalité, ce qu'eux, ils ont appelé interprétation n'est autre que la falsification, la modification et l'altération des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf que pour embellir leur égarement, ils l'ont appelé d'un nom un peu plus acceptable, interprété. Ah non, les attributs d'Allah qu'on ne comprend pas, que notre raison n'accepte pas, ou dans lesquels on a l'impression qu'il y a une ressemblance avec les créatures, alors on les interprète. Non. Et il y a ceux qui renient clairement les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui disent que les attributs d'Allah, les noms d'Allah, ce sont des noms qui sont dénués de tous attributs. Ce sont juste des noms comme ça. Tout ça va à l'encontre de la première obligation concernant ce tawhid, qui est le fait d'affirmer et d'accepter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé et accepté pour lui-même, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième obligation concernant la foi dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la négation, le fait de nier ce qu'Allah a nié pour lui-même dans son livre ou ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nié concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yadhlimun. Dans sourate Yunus verset 44, dans le sens, certes Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ici, il nie qu'il a cette caractéristique qui est l'injustice. Mais quand on nie l'injustice d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut en même temps affirmer son opposé dans la perfection. C'est-à-dire que cela implique qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a une justice parfaite. Donc ça ne suffit pas de dire Allah, il n'est pas injuste. On dit Allah, il n'est pas injuste et il a une justice parfaite. Donc quand on nie un défaut ou une caractéristique de manquement à Allah tabaraka wa ta'ala, nous sommes dans l'obligation d'affirmer son contraire dans la perfection. Donc quand on nie qu'Allah tabaraka wa ta'ala a des imperfections, par exemple quand on dit Allah n'a pas besoin d'associer, qu'est-ce que cela veut dire son contraire dans la perfection? C'est qu'il est unique. Quand on dit que nulle fatigue ne le touche, cela veut dire qu'il est le vivant, qu'il a la force absolue, et tous les noms et les attributs qui vont dans ce sens-là. Donc, nous nions ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager ont nié, et nous affirmons ce qu'ils ont affirmé. Et ce qu'ils n'ont ni nié, ni affirmé, alors on se tait. Ni on ne le nie, ni on l'affirme. Certains négateurs des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui reconnaissent l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui assimilent Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures dans ses attributs, ou qui renient les attributs d'Allah. Donc que ce soit ceux qui font l'assimilation ou ceux qui renient les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors nous disons sur les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala ce que nous disons sur son être. C'est-à-dire, celui qui reconnaît que l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas similaire aux êtres et aux essences des créatures, doit reconnaître obligatoirement qu'Allah a des attributs qui ne sont pas similaires aux attributs des créatures. Il n'y a aucun mal en cela. Alors, dis à celui qui renie les attributs en les rejetant ou en les interprétant, comme il dit, car l'interprétation n'est qu'une modification en réalité, nous lui dirons, reconnais-tu qu'Allah a des attributs? S'il dit oui et te dit comment sont ses attributs, nous lui dirons, reconnais-tu l'être d'Allah? Il te dira oui. Alors, comment est son être? Il te dira, aucun être n'est comme son être. Tu lui répondras alors, ses attributs aussi. Aucun attribut n'est semblable et similaire à ceux d'Allah. Les attributs d'Allah sont à la mesure de son être, subhanahu wa ta'ala. Concernant les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, On a dit, on affirme ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est affirmé, mais cette affirmation, elle doit être sans quatre égarements, sans quatre points. Premièrement, at-tahrif, on en a parlé. Deuxièmement, at-ta'til, at-tahrif, ça veut dire la modification ou l'altération. At-ta'til, ça veut dire la négation. At-takyif, c'est-à-dire le fait de chercher à comprendre le comment. Et at-tamthil, tamthil, ça veut dire le fait d'assimiler Allah à ses créatures, la similitude. Donc ces quatre choses-là sont interdites quant aux attributs et aux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire on affirme les noms et les attributs d'Allah en délaissant ces quatre égarements-là. Premièrement, at-tahrif. At-tahrif, c'est la modification, l'altération, la falsification des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette modification, elle peut s'opérer de deux manières. Soit une modification dans le mot en lui-même, en y rajoutant un autre mot, ou en y rajoutant une lettre, ou en enlevant une lettre, ou en modifiant une haraka. C'est la fatha, la kasra, la dhamma, les voyelles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, c'est les voyelles qui sont sur les lettres, qui font le son A, I, U. Donc, si on enlève ou on modifie un mot, ou on rajoute, ou une lettre, ou même une haraka, même une voyelle, ceci s'appelle la modification dans le mot en lui-même. At-tahrif al-lafzi, qui veut dire la modification dans le mot. Comme par exemple, certaines sectes égarées qui ont dit, quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, thumma stawa ala al-arsh, puis il s'est établi sur son trône, ou il s'est élevé sur son trône, il déforme la parole istawa en lui rajoutant un lam, un L, on va dire, un lam. Et ils disent istawla au lieu de istawa. Ce qui change le sens. Car istawla, ça veut dire prendre le pouvoir et conquérir. Donc, comme il réfute, il refuse que Allah tabaraka wa ta'ala s'est établi sur son trône, ils ont fait quoi? Ils ont voulu changer carrément le mot. Et il y a un autre exemple qui s'est passé. Et ceux qui ont fait le plus cela, c'est les Mu'tazila. Ils ont déformé et modifié beaucoup de textes pour que cela aille dans le sens de leur innovation. Alors, quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa kallama Allahu Musa taklima » et Allah a parlé à Moussa très clairement, c'est-à-dire il lui a bien parlé. Il faut savoir qu'en langue arabe, le rôle d'un mot dans une phrase, son rôle grammatical, il est reconnu par la voyelle par laquelle le mot se termine. Par exemple, ici, l'exemple ici, « Wa kallama Allahu » il y a une dhamma, on dit « Allahu ». Donc Allah, c'est le sujet. C'est lui qui parle, subhanahu wa ta'ala. Alors les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient « Wa kallama Allaha » avec une fatha au lieu de la dhamma pour en faire un complément d'objet, pour dire que c'est Moussa qui a parlé à Allah et non pas Allah à Moussa, alayhi salam. Et en faisant cela pour renier la parole d'Allah et dire qu'Allah ne parle pas. Alors une histoire étonnante est arrivée. Une personne parmi Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila est venue voir un des grands lecteurs du Coran, un des imams des sept lectures, Abi Amr ibn al-Ala, et lui a dit, je veux que tu lises « Wa kallama Allah Musa taklima » avec un nasb, avec la fatha, un nasb sur le nom d'Allah, pour que Musa soit considéré comme celui qui a parlé à Allah. Alors Abu Amr lui a dit, et si je lisais de cette manière-là ce verset, comment ferais-tu avec l'autre verset dans sourate Al-A'raf, quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِّيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Et quand Moussa est arrivé à notre rendez-vous et que son Seigneur lui a parlé, alors voilà que cet innovateur s'est retrouvé bloqué. Car ici, ils peuvent pas changer aucune haraka. Ils sont obligés d'effacer ce verset ou d'enlever des mots pour ne pas reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à Moussa, alayhi salam. Donc ceci est la modification dans le mot et dans la construction du mot en elle-même. La deuxième catégorie de modification, c'est la modification qui se fait dans le sens. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas au mot, ils le laissent comme il est. Mais ils disent, on interprète son sens. Mais en fait, cette interprétation, comme on l'a dit, le mot interprétation, il n'est venu que cacher la réalité de leur acte, qui est la modification. Donc ils viennent et ils disent, quand Allah tabaraka wa ta'ala parle de ses mains, cela signifie la puissance ou le bienfait. Quand Allah tabaraka wa ta'ala parle de sa colère, cela veut dire la volonté de se venger. Quand Allah tabaraka wa ta'ala parle de sa miséricorde, cela veut dire la volonté d'octroyer un bienfait. En fait, ils renient les attributs en affirmant certaines de leurs implications. Nous, on reconnaît qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait miséricorde et qu'Allah a de la miséricorde, mais qui ne ressemble pas à la miséricorde des créatures. Et le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, fasse miséricorde à quelqu'un, cela implique qu'il va lui octroyer des bienfaits. Mais on ne renie pas comme eux l'attribut de la miséricorde. Eux, ils renient. Ils disent la miséricorde. Non, ils disent Allah, il veut octroyer des bienfaits, mais ils ne reconnaissent pas l'attribut de la miséricorde. Ils modifient son sens. Pareil pour la colère, pareil pour les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tous les autres attributs que leur passion ou leur logique corrompue n'a pas voulu accepter. Donc certaines de ces sectes ont voulu interpréter et plutôt falsifier le Coran et la Sunna, et ils ont dit qu'il ne fallait pas parler d'Allah tabaraka wa ta'ala avec des termes que l'on utilise pour les êtres humains ou pour les créatures, sinon cela implique que l'on rend similaire Allah à sa création. Mais subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala se connaît mieux que quiconque. Donc, il a choisi les meilleurs termes et les meilleurs mots pour se décrire lui-même. Et il s'est décrit avec des attributs de perfection. Mais notre raison à nous n'est pas capable de comprendre la réalité de ces attributs. Donc, les créatures sont obligées d'agréer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a agréé à propos de sa propre description. Et la similitude qu'il y a entre les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses créatures se fait uniquement et seulement dans le sens apparent du mot, rien de plus. Mais dans la réalité des choses, ce sont deux choses complètement différentes. Par exemple, nous affirmons qu'Allah a la qualité, a l'attribut de la vue. Les êtres humains aussi, ils ont l'attribut de la vue. Mais la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala est parfaite, à l'absolu, et elle est infinie, contrairement à la vision de l'être humain qui est manquante et limitée. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les deux. Celui qui dit comment Allah tabaraka wa ta'ala est, celui qui a parlé, celui qui nous a informé des noms et des attributs d'Allah, ce n'est autre qu'Allah lui-même. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à propos d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons l'obligation de croire qu'il est le plus savant des gens en Allah, qu'il est le plus véridique en propos, qu'il est le plus sincère dans les objectifs et qu'il est le plus éloquent en parole. Nul n'est donc meilleur conseiller que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers la création. Nul n'est plus éloquent que lui et nul n'est plus véridique. Nul n'est plus savant en Allah que lui parmi les créatures. Ce sont donc quatre qualités par lesquelles la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décrite. Et par celle-ci, la parole devient donc complète. La science, la véracité, la loyauté et l'éloquence. La deuxième chose qu'il est obligatoire quand on affirme les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de croire dans les attributs d'Allah sans les nier. Biduni ta'til. La négation des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit tous les noms et les attributs, comme on fait al-Jahmiyyah, ou bien une partie d'entre elles, comme on fait les Asha'ira, les Ash'arites, et les Maturidites, les Maturidiyah, qui n'affirment que certains attributs qui peuvent être supportés par leur logique corrompue, comme ils le prétendent eux-mêmes, qui peuvent être supportés par la logique, selon eux. Alors que les gens de la Sunna affirment tous les attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah tabaraka wa ta'ala. La troisième chose qui est interdite dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est at-takyif. C'est le fait de demander comment sont les attributs d'Allah. Par exemple, chercher à savoir la description des mains d'Allah, de ses yeux ou autres. Tout ceci est interdit. On n'a pas à demander à ce sujet et on n'a pas non plus à chercher à s'imaginer comment sont les attributs d'Allah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, l'imam Malik, rahimahullah, a été interrogé par un homme qui lui a dit « Oh Aba Abdillah, Ar-Rahman ala l'arsh istawa, le tout miséricordieux qui s'est élevé au-dessus du trône, comment s'est-il élevé ?» Alors l'imam Malik n'a pas du tout aimé cette question. Il a regardé le sol et il avait un morceau de bois dans la main. Il a alors gratté le sol avec son bâton, puis a commencé à avoir des sueurs. Et il est devenu rouge et il s'est mis en colère. Et il a dit « L'istiwa ma'loum ». L'établissement d'Allah, il est connu. Al-kayfu majhoul, le comment est inconnu. Al-imanu bihi wajib, la croyance en cela, c'est-à-dire en fait qu'Allah s'est établi sur le trône, est une obligation. Wasu'alu anhu bid'ah, et le fait de demander à ce sujet, c'est-à-dire le comment, est une innovation. Puis, il a ordonné que l'on fasse sortir cette personne. Cette règle-là que l'imam Malik rahimahullah a citée, on peut le dire au sujet de tous les attributs d'Allah tabaraka ta'ala. Par exemple, quand on dit Allah descend au dernier tiers de la nuit, alors on dira la même chose. Sa descente est connue. Le comment est inconnu. Le fait d'y croire est obligatoire. Et demander le comment est une innovation. La parole, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala se mette en colère, le fait qu'Allah ta'ala rit, tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, on peut appliquer cette règle que l'imam Malik rahimahullah a citée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un comment. Il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Donc, on doit croire et affirmer, mais on n'a pas le droit de poser la question du comment. Car Allah tabaraka wa ta'ala ne nous l'a pas dit ni dans le Coran ni dans la Sunna authentique. Donc la réalité de l'attribut, on ne les connaît pas. La réalité de ces attributs, de comment elles sont, on ne le connaît pas, même si elle existe, cette réalité. Le quatrième point qui est interdit dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est at-tamthil. Et on ne dit pas at-tashbih, on dit at-tamthil. Il y a une différence entre les deux. At-tashbih, ça veut dire la ressemblance. At-tamthil, ça veut dire l'assimilation ou bien la similitude. Quelle est la différence entre ces deux termes? At-tashbih, la ressemblance. Il peut y avoir une ressemblance entre les choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont similaires. Et ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a renié pour lui-même, c'est la similitude quand il a dit « Laysa ka mithlihi shay ». Il n'y a rien qui lui est similaire, à la différence de la ressemblance. Par exemple, la main d'Allah, la main des créatures. La ressemblance, elle est dans le nom, simplement. Mais il n'y a pas de similitude ou bien d'assimilation entre les deux. Si on dit « sans aucune ressemblance », on tombe dans un problème, car il y a une ressemblance, ne serait-ce que dans le nom. Si on veut comprendre ça pour les créatures, on dit « le pied d'un homme », « le tronc d'un arbre », « le pied d'un arbre », « le pied d'une fleur », « le pied d'un éléphant ». Est-ce que tout ça, c'est la même chose? Non, tout ça, ça s'appelle « pied ». Mais la réalité, elle est complètement différente. Si ceci est vrai entre les créatures, alors comment entre les créatures et Allah tabarakata? Donc, « at-tamthil », c'est le fait d'assimiler Allah à ses créatures, rendre Allah similaire à ses créatures. Et il y a deux formes de « tamthil », d'assimilation. La première forme, c'est le fait d'assimiler Allah à ses créatures, le fait de donner à Allah des attributs de la créature. Par exemple, de dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, après la création des cieux et de la terre, il s'est reposé le septième jour. Donc ici, il y a le fait d'assimiler Allah à un être humain, à une créature qui se fatigue. Alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nulle fatigue, nul sommeil, ni somnolence ne le touche, subhanahu wa ta'ala. Ou bien de dire que la main, le visage, le rire, la colère sont comme celles des créatures. Ceci aussi est une manière d'assimiler Allah à ses créatures. Et ceci est interdit. La deuxième manière d'assimiler, c'est d'assimiler la créature à Allah dans le fait de donner à la créature des attributs qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ce que les chrétiens ont fait, ils ont donné à Isa alayhi salam des attributs qui sont propres à Allah, comme le fait de pardonner les péchés. Comme ceux qui disent qu'il y a certaines créatures qui connaissent l'imperceptible, l'invisible, alors qu'il n'y a qu'Allah qui connaît l'imperceptible. Alors que les gens de la Sunna affirment tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils ne font aucune analogie entre Allah et sa création. Allah est au-dessus de tout. Comment pourrait-on le comparer, lui le créateur parfait, avec sa création qui est manquante et imparfaite? Et Allah tabaraka wa ta'ala, il est élevé par son être et son essence, de même qu'il est élevé par ses attributs. Il a les attributs et les noms les plus élevés. Donc, ces quatre points qu'on a cités, qui sont at-tahrif, la modification, at-ta'til, la négation, at-takyif, le fait de demander le comment, de chercher à savoir le comment, et at-tamthil, l'assimilation, le fait d'assimiler Allah à ses créatures, ces quatre points constituent un égarement par rapport à la croyance authentique et le musulman doit faire des efforts pour connaître la croyance sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la croyance sur laquelle étaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum et ceci est la seule vérité. Allah n'accepte aucune autre croyance hormis celle-ci. Tafaddal.
Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut. Wa kallama Allahu Musa taklima, sourate An-Nisa, verset 164. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Wa lamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh, sourate Al-A'raf, verset 143. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا Sourate Maryam, verset 52. Et nous l'appelâmes du versant droit du mont Sinaï et nous le rapprochâmes tel un confident. Nous croyons que لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي Sourate Al-Kahf, verset 109. Si la mer était de l'encre afin d'écrire les paroles de mon Seigneur, la mer se tarirait certainement avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Sourate Al-Luqman, verset 27. Et quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes et la mer renforcée de cette autre mer serait de l'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah est certes puissant et sage.
Non. Ce passage-là, il parle du fait d'attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala la parole. Donc, Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah, attribuent la parole à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah parle quand il veut, de la manière qu'il veut. Il parle avec des lettres, soit en langue arabe, comme dans le Coran, soit en langue hébraïque, comme dans la Torah, etc. Il parle avec la langue qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et sa parole est avec un son qui s'entend. Et ce son n'est pas comme le son des créatures. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, fait entendre sa parole à qui il veut parmi ses créatures. Par exemple, Moussa alayhi salatu wa salam l'a entendu sans intermédiaire. Ainsi également, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisi et a permis parmi ses créatures, parmi les anges, d'entendre sa parole subhanahu wa ta'ala, et ainsi parmi les prophètes comme Moussa alayhi salam, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant l'ascension. Et il parlera subhanahu wa ta'ala aux croyants le jour de la résurrection, et les croyants lui parleront. Certaines sectes ont dévié concernant l'attribut de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certaines ont renié cet attribut, d'autres ont dit qu'Allah parle de façon interne, en son intérieur, et personne ne peut l'entendre. Alors que Ahl Sunnah croit qu'Allah parle et que sa parole est avec des lettres et un son. Naam. Et la suite.
Nous croyons que ces paroles sont les plus parfaites, véridiques dans les informations, justes dans les lois religieuses et plus belles en récit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سُدْقًا وَعَدْلًا » Sourate Al-An'am, verset 115. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. Il dit aussi « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » Sourate Al-Nisa, verset 87. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ?
Naam. Il n'y a pas dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala de mensonge, ni d'injustice, mais sa parole est la plus complète des paroles dans tous les sens. Si tu regardes l'élocution, tu trouveras que c'est la plus complète dans l'élocution. Si tu regardes dans le sens, tu trouveras que c'est la plus complète dans le sens, etc.
Non. Nous croyons que le noble Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle il s'est exprimé réellement, avec laquelle il parla à Jibril, qu'il a descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ Sourate Al-Nahl, verset 102, dit « C'est le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 192 à 195. Et certes, c'est une révélation, le Coran, descendu par le Seigneur de l'univers, avec laquelle l'Esprit fidèle est descendu sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs, dans une langue arabe explicite. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures par son essence et par ses attributs, conformément à la parole du Très-Haut, wa huwa al-'aliyyul 'azim, Sourate Al-Baqara, verset 255. Et il est le Très-Haut, le très grand. Et à sa parole, wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi wa huwa al-hakimul khabir, Sourate Al-An'am, verset 18. C'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Nous croyons que khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbirul amr. Sourate Yunus, verset 3. Il créa les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône, administrant toutes choses.
Naam. Donc, dans la croyance de Ahl Sunnah, il y a le fait de croire que le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons vu, est un attribut parmi ses attributs. Et on ne dit pas que le Coran a été créé par Allah, ou que c'est une créature, ou bien que c'est l'expression de la parole d'Allah. Mais nous disons bien que c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis il a parlé, après cela, de l'istiwa. L'istiwa, l'élévation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fait partie des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah est au-dessus des cieux. Il s'est élevé sur son trône, d'une manière qui convient à sa majesté. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, a un trône. Il nous a informé, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a 8 anges qui le soulèvent le jour du jugement dernier, mais personne ne sait comment est ce trône. À ce sujet, on a cité tout à l'heure l'histoire de l'imam Malik, où il s'est énervé lorsqu'un homme lui a demandé comment Allah s'est établi sur son trône. Mais cela ne concerne pas seulement son élévation au-dessus du trône, ceci est valable pour tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. On ne pose pas la question de comment. Comment Allah s'est élevé sur son trône, comment les yeux d'Allah, comment, etc. Celui qui les pose aura contredit la sunna. Et on ne doit pas dire comment, comme les innovateurs disent, lorsqu'on leur demande où est Allah, ou on ne doit pas dire, comme ce que disent les innovateurs, quand on leur demande où est Allah, ils disent Allah est partout. Ou alors, on ne sait pas où il est. Tout ceci contredit le Coran et est un égarement. On doit répondre à cette question. Il est sur son trône, au-dessus des cieux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surah Taha, verset 4, « Ar-Rahman wa al-Arsh istawa » Le miséricordieux, il s'est établi au-dessus du trône. Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux. Il n'est pas mélangé à sa création. On ne dit pas qu'Allah est dans le ciel, dans les nuages, mais on dit qu'Allah est au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, séparé de celle-ci. Donc le sens « fi-sama », il est dans le sens « ala », au-dessus. Il y a de nombreuses preuves concernant le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus des cieux dans le Coran, comme les versets cités dans le livre et également dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'époux qui demande à sa femme de l'approcher et qu'elle s'en empêche, celui qui est au-dessus des cieux se mettra en colère jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. Et également, il y a le hadith de la jeune esclave. Un homme avait une esclave qui était responsable d'un troupeau. Et pendant qu'elle était partie faire paître son troupeau, elle a perdu un des moutons. Alors son maître s'est mis en colère, il l'a frappé au visage, puis a eu des remords. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir comment faire expier son péché. Alors, il lui a expliqué la situation et a dit, est-ce que je peux la libérer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de la ramener. Il lui a demandé, où est Allah? La jeune esclave a répondu, fis sama, au-dessus des cieux. Puis, il lui a dit, qui suis-je? Elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, libère-la, car elle est croyante. Également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours à Arafat, il a dit « Ai-je bien transmis ?» et il pointa du doigt vers le ciel, puis vers les gens en disant « Mon Seigneur témoigne ». Aussi tout être humain, dans sa saine nature, a la conscience innée qu'Allah est au-dessus des cieux. C'est pour cela que quand on s'adresse à Allah, quand on a un grand problème par exemple, on se tourne instinctivement vers le ciel en levant les mains. Donc on affirme l'attribut de l'istiwa, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. est l'attribut de l'ulu, l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus de toutes ses créatures. Naam, faddal li.
Son établissement, l'istiwa, sur le trône désigne son élévation au-dessus du trône par son essence d'une élévation particulière qui sied à sa majesté et sa grandeur. Nul ne peut en connaître la réalité sauf lui. Nous croyons qu'il est avec ses créatures tout en étant sur son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes, administre leurs affaires, pourvoit la subsistance du pauvre, réconforte celui qui est abattu, donne la royauté à qui il veut, la retire à qui il veut, honore qui il veut et humilie qui il veut. Il détient le bien dans sa main et il est capable de toutes choses. Et celui qui est ainsi est vraiment avec ses créatures, même s'il est vraiment au-dessus d'eux, sur son trône par son essence. « Laïsa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Surat ash-Shura, verset 11. « Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Nous ne disons pas comme le font les Ululiyya parmi les Jahmiyya et d'autres qui disent qu'Allah est avec ses créatures sur terre en son essence. Nous estimons d'ailleurs que celui qui tient de tels propos est mécréant ou égaré, car il a décrit Allah par les défauts qui ne lui sied pas.
Naam. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici, dans le Coran, il dit qu'il est avec ses créatures. On a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de toute sa création. Et l'istiwa et l'ulu. Mais dans certains versets, il affirme qu'il est avec ses créatures. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il est au-dessus de son trône avec son essence, son être, mais il est avec sa création par sa connaissance, son oui et sa vision, ce que l'on appelle al-ma'iyya. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous par sa connaissance. Il nous surveille, il est témoin de tous nos actes, où que nous soyons, que ce soit sur terre ou dans la mer, dans la nuit ou le jour, dans vos maisons. Et toutes les créatures sont tous dans sa connaissance et Allah les voit toutes et il sait tout ce qu'ils font. Il entend leurs paroles et voit où ils sont. Même une fourmi qui est au fond de la terre, rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc deux types de ma'iyya. Al-ma'iyya, c'est-à-dire le fait qu'Allah soit avec ses créatures. Al-ma'iyyatul 'amma, le fait qu'Allah est avec sa création par sa connaissance, son oui, sa vue, la présence générale. C'est-à-dire qu'il est avec eux par sa connaissance, par son oui, par sa vue. Et ici, toutes les créatures sont concernées et sont égales en cela. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » Et il est avec vous où que vous soyez, dans surat al-Hadid. Et il y a al-ma'iyyatul khassa, la présence spécifique. C'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec ses serviteurs pieux, dans le fait qu'il les aide, il les supporte, il leur donne la victoire. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est avec les muhsinin. Inna allaha ma'a alladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est certes avec ceux qui ont craint et ceux qui font preuve de bienfaisance. Le fait qu'on affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous par sa connaissance et non par son être et son essence, cela ne contredit pas le fait qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Car le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit proche de nous et avec nous, ce n'est pas comme la proximité des créatures entre elles et il n'est pas avec nous comme les gens sont entre eux. Il n'y a rien qui lui est semblable, subhanahu wa ta'ala. Naam.
Nous croyons en ce dont nous a informé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, qu'il descend chaque nuit au ciel le plus bas, qu'il n'en reste que son dernier tiers. Il dit alors, qui m'invoque, que j'exauce sa requête, qui me demande, que je lui donne, qui m'implore le pardon, que je lui pardonne.
Naam. De par ce hadith, qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, on affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit, d'une manière qui convient à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Nous y croyons sans faire aucune similitude entre la descente d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle des créatures, car comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Et cet attribut fait partie de ses attributs d'action. Car il faut savoir que les attributs d'Allah sont de deux sortes. As-sifatu dhatiyya, les attributs en rapport avec son être, ce sont les attributs qui ne se séparent jamais de son être. Ce sont des attributs qui n'ont aucun lien avec la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple, la vie, la science, la force, le fait qu'il ait un visage subhanahu wa ta'ala. Et as-sifatu fi'liyya. Ce sont les attributs uniquement reliés aux actions d'Allah et donc qui sont reliés à sa volonté. Il les fait quand il veut et quand il ne veut pas, il ne les fait pas. Le fait qu'il soit en colère ou satisfait de ses serviteurs, le fait qu'il rit,
Et il fait partie de cette dernière catégorie, sifat al-fi'liya, le fait qu'Allah descende au dernier cieux, au dernier tiers de la nuit. Ces attributs-là, Allah a toujours été capable de les faire, sauf qu'il les fait quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et cela ne renie pas le fait de dire qu'Allah descend de par son être. On ne dit pas son ordre, il descend. Ça, c'est pour réfuter les innovateurs. Mais sinon, il nous suffit de dire Allah descend. Mais si on a besoin de réfuter les innovateurs qui disent c'est l'ordre d'Allah qui descend, c'est la miséricorde d'Allah qui descend ou autre, alors il n'y a pas de mal à dire Allah descend par son être. Dans ce hadith, on peut donc affirmer qu'Allah descend et cela fait partie de ses attributs d'action. Il y a également l'affirmation de l'ulou, de l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et du fait qu'il soit élevé au-dessus de sa création, subhanahu wa ta'ala, car on ne descend pas excepté d'un endroit élevé. Également, il y a l'affirmation de l'attribut de la parole, al-kalam, dans ce hadith, la parole d'Allah, tabaraka ta'ala. Car dans le hadith, il est dit, fayaqulu, il dit. Aussi, on peut affirmer à travers ce hadith le fait qu'Allah pardonne, qu'il répond et qu'il donne, et tout ceci fait partie des attributs d'Allah, tabaraka ta'ala. Et on croit que tout cela est la vérité, car c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a informé, et le plus savant des hommes, le plus véridique et le meilleur en parole. Il nous a informé au sujet de son Seigneur qu'il descend chaque nuit au ciel de Dunya, au dernier tiers de la nuit. Et comment descend-il? Allahu a'lam. On ne demande pas, on ne demande pas. Naam,
fadal. Nous croyons qu'Allah, gloire et pureté à lui, viendra le jour de la résurrection afin de départager ses serviteurs. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra. Suratul Fajr, versets 21 jusqu'à verset 23. Prenez garde lorsque la terre sera pulvérisée coup après coup, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, et on amènera ce jour-là la géhenne. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi bon le rappel, alors?
Ici, on affirme qu'Allah tabaraka wa ta'ala viendra au jour du jugement dernier afin d'établir le jugement entre ses serviteurs. On affirme cela d'une manière qui convient à sa majesté, mais en ce qui concerne le comment, Allahu a'lam, nous ne le demandons pas et nous ne le connaissons pas, nous ne le savons pas. Nous savons seulement que cela n'est pas semblable à ses créatures, et il est interdit de questionner sur cela, c'est une innovation. Mais on reconnaît, on dit qu'Allah vient. On ne dit pas c'est l'ordre d'Allah qui vient ou c'est les anges qui viennent. Non,
pardon. Nous croyons aussi que fa'alul lima yurid, surat al-buruj, verset 16, il fait parfaitement ce qu'il veut. Nous croyons que sa volonté se divise en deux catégories. Une volonté universelle, par elle se réalise ce qu'il veut, et elle n'implique pas forcément qu'il aime la chose réalisée, telle qui est désignée par le sens de al-mashi'a, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa law sha'a Allahu ma qatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid, surat al-baqara, verset 253. Et si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué, mais Allah fait ce qu'il veut. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa rabbukum, sourate Hud, verset 34. Au cas où Allah voudrait vous égarer, il est votre Seigneur. Une volonté religieuse, elle n'implique pas forcément la réalisation de la chose voulue, mais cette chose est toujours aimée d'Allah. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, sourate Nisa, verset 27. Allah veut accueillir votre repentance.
Naam. Alors ici, le mu'allif rahimahullah, le cheikh Mohamed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, explique cet autre point parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est la volonté. Et cette volonté, elle se divise en deux catégories. Iradatun kauniyya, la volonté universelle. Et iradatun shar'iyya, la volonté religieuse. La volonté universelle, cela implique le mashi'a. C'est le fait que la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'univers est la prédestination. Cela englobe tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut, qu'il aime ou qu'il n'aime pas cette chose. Par exemple, il a voulu que la pluie tombe ou que quelqu'un fasse telle adoration. Mais il a voulu également les meurtres, les guerres, les ouragans. Tout ceci s'est produit uniquement par la volonté d'Allah. Cela ne peut se produire que parce qu'Allah l'a voulu. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah aime ces choses-là. Il permet dans sa volonté certaines choses qui se produisent dans la création qu'il n'aime pas afin d'éprouver les gens. Donc par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, et pour la sagesse pour laquelle il a créé cet univers, pour laquelle il a créé les hommes et les djinns, afin d'éprouver trouver les gens. Allah a voulu par sa sagesse qu'il y ait des désastres afin de voir si l'être humain va être patient, obéissant. Et ce, quand il lui arrive un malheur, est-ce qu'il va faire preuve de foi ou bien il fasse le détourner de la foi, etc. Et il y a la volonté religieuse. Al-iradatu al-shar'iyya. Cela implique al-mahabba, l'amour d'Allah tabaraka ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah aime cette chose-là. C'est tout ce qu'Allah tabaraka ta'ala aime et agrée. Mais cela ne se passe pas forcément. Par exemple, Allah aime que les gens soient musulmans et qu'ils l'adorent. Pourtant, tout le monde n'est pas musulman. Comme dans le verset cité par le cheikh, rahimahullah, Allah veut le repentir dans le sens qu'il aime le repentir. Allah aime qu'on se repente. Pourtant, beaucoup de personnes ne se repentent pas. Donc la différence entre la volonté universelle et la volonté religieuse, c'est que la volonté universelle, c'est dans des choses qu'Allah peut aimer et agréer, et il peut aussi ne pas les aimer et ne pas les agréer, dans le cas où il les a interdits dans sa révélation, comme les péchés, l'injustice, etc. Alors que la volonté religieuse ne se passe que dans ce qu'Allah tabaraka ta'ala aime. Deuxièmement, la volonté universelle, elle est voulue comme un moyen, ce n'est pas un objectif en soi, comme une cause. Donc Allah a créé Iblis, il a créé le mal, mais pour qu'il y ait une épreuve, pour quelque chose de plus grand. Il n'a pas voulu que le mal existe pour le mal, mais dans le but de tester les créatures. Alors que la volonté religieuse d'Allah tabaraka ta'ala est voulue pour elle-même, car Allah aime l'obéissance et il est satisfait de cela. Troisièmement, la troisième différence, la volonté universelle doit se produire. Il n'y a pas de choix. Si Allah voulut qu'à tel instant il y allait avoir un tremblement de terre, cela doit se produire. Alors que la volonté religieuse, cela peut se produire comme ne pas se produire. Allah veut, aime que les gens croient, mais il a laissé le choix aux gens de croire ou de ne pas croire. Et les gens de la sunna affirment ces deux types de volonté et ils font la distinction entre les deux. Naam.
Nous croyons que ses volontés universelles et religieuses sont régies par sa sagesse. Ainsi, tout ce qu'il aura décrété universellement ou tous les actes d'adoration accomplis par ses créatures qu'il aura prescrits religieusement l'ont été par une raison particulière et en corrélation avec sa sagesse, que nous en ayons pris connaissance ou que cela dépasse notre entendement. Alayhisallahu bi ahkamil hakimin, surat at-Tin, verset 8. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Wa man ahsanu minallahi hukman لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Surat al-Ma'ida, verset 50. Qui est meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui croient avec certitude?
Non. Donc, la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala dépend de sa sagesse, que nous sachions cette sagesse ou que nous l'ignorions. Mais nous devons nous soumettre à ce que Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné, car Allah fait ce qu'il veut. Comme il dit, فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, car il ne fait une chose que selon sa sagesse, subhanahu wa ta'ala.
Non, fadda. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ses alliés et qu'il l'aime aussi. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Surat Ali Imran, verset 31. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Surat Al-Ma'ida, verset 54. Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Surat Ali Imran, verset 146. Allah aime les endurants. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Surat al-Hujurat, verset 9. Et soyez équitables, car certes Allah aime les gens équitables. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Surat al-Baqarah, verset 195. Et soyez bienfaisants, car certes Allah aime les bienfaisants.
Non. Donc on affirme l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah aime ses alliés. Certaines sectes disent que si on affirme cela, on affirme une similitude entre les créatures, car l'amour est un sentiment humain. Mais on leur répond, il n'y a pas de similitude entre les deux, même si dans le terme, il y a une similitude. Dans la réalité, ce sont deux choses différentes. La façon dont Allah tabaraka wa ta'ala aime n'est pas comparable à la créature. Il faut affirmer qu'Allah aime et qu'il aime ses alliés de la façon qui convient à sa majesté. Dans les versets cités, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui suivent le messager, les endurants, les gens équitables, les bienfaisants, etc. Ahl sunnah wal jama'a, ils affirment qu'il y a un amour des deux côtés. Allah aime ses alliés et ses alliés aiment Allah. Contrairement à certaines sectes qui ont nié cela, comme les Mu'tazila, qui ont dit « Il n'aime pas et on ne peut pas l'aimer ».
Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée tout ce qu'il a légiféré comme actes et paroles, et qu'il déteste tout ce qu'il a interdit. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Surat Az-Zumar, verset 7. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Cependant, il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Toutefois, si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين. Surat At-Tawbah, verset 46. Mais Allah détesta leur départ pour le combat. Il les a donc rendus paresseux et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les croyants qui accomplissent les bonnes œuvres. Radiallahu anhum wa radu anhu. ذلك لمن خشى ربه. Surat Al-Bayyinah, verset 8. Allah les agréa et ils l'agréa. Telle sera la récompense pour celui qui aura craint son Seigneur.
Naam. Donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit par l'attribut de la satisfaction. Ar-Rida. Et la satisfaction d'Allah est un attribut qui est lié à sa volonté, qui fait donc partie des attributs d'action. Al-Fi'liya. Sifat al-Fi'liya. Et le fait qu'Allah déteste est un attribut qui a été établi dans le Coran et la Sunna aussi.
Nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala se courrouce contre ceux qui ont mérité sa colère parmi les mécréants et les autres.
Adh-dhannina billahi dhanna sawa alayhim da'iratu sawa wa ghadiba Allahu alayhim. Surat al-Fath, verset 6.
Qui pense du mal d'Allah, qu'un mauvais sort leur soit réservé et Allah est courroucé contre eux.
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ils auront un châtiment immense.
Non. Ici, il y a un autre attribut qui est affirmé, qui est la colère, qui est le contraire de la satisfaction. Croire en l'attribut de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie de la croyance de l'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit décrit par cet attribut, par l'attribut de la colère, envers celui qui le mérite, parmi les mécréants, et aussi parmi les musulmans pécheurs. La colère d'Allah tabaraka wa ta'ala est un attribut parmi les attributs d'action. Donc il est lié à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces descriptions qui sont données d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il s'est donné à lui-même, il s'est décrit comme ayant la colère, la satisfaction, le fait de détester certaines choses ou personnes, etc. Tous ces attributs font partie des attributs d'action. Allah fait ses actions quand il veut et lorsqu'il veut. Et Ahl Sunnah wal Jama'ah affirme tous ces attributs comme cela convient à sa majesté, sans faire de similitude entre lui et ses créatures. On ne fait pas non plus comme certaines sectes qui cherchent une interprétation et qui modifient le sens de ces attributs. On les affirme comme Allah tabaraka wa ta'ala les a affirmés. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.